dit qu'il, quand Dieu l'a délivré de ses nombreux ennemis qui le poursuivaient, et David nous compte un peu, fait l'éloge de Dieu. Et le verset 4 nous dit, loué soit l'Éternel. Et quand David dit loué soit l'Éternel, quand il a évoqué, Dieu l'a délivré de ses ennemis. Mais on voit que David a cette disposition avant même de commencer à prier, mais bénir l'Éternel. Un peu étrange. Notre premier réflexe souvent, c'est de devant une difficulté de pouvoir prier. Mais lui, il veut élever le nom de son Dieu. Et ensuite, il nous raconte comment Dieu fait trembler. L'intervention de Dieu fait trembler sa création. Et ce matin, nous sommes à 10 jours, en gros, 10 jours de la fin de l'année. Et nous avons balayé à nouveau une année. 2019, c'est bientôt une histoire ancienne, et avec 2019 a été avec ses lots de joie, mais aussi ses lots d'épreuves. Et nous voulons assurément bénir le nom de notre Dieu. Parce que pendant toute cette année, et nous assurons encore pendant des années à venir, Dieu a été présent au milieu de nous. Dieu a été présent au milieu de nous, mais présent aussi à côté de chacun de nous. Nous délivrant de choses que nous ne connaissions même pas, que nous n'avons même pas conscience. Peut-être certaines choses, nous en avions conscience, mais d'autres pas. Donnant aussi des moments de joie. On a eu des baptêmes, on a eu des témoignages montrant que Dieu intervient. Et ce psaume fait penser que ce Dieu est notre Père. Ce Dieu est notre Père. On va, dans quelques jours, mercredi, je crois, on va fêter à Noël. Ce don, on va dire, il est né le divin enfant. Mais pour le monde, ça part grand sens. Il y a un certain paganisme autour de tout ça. Mais nous savons que Christ n'est pas venu ce 25 décembre. Mais nous savons une chose. C'est que même les païens reconnaissent un jour, il y a eu un événement. Ils l'ont détourné, mais il y a eu un événement. Ce Dieu, si grand, si puissant, en Jésus-Christ s'est humilié, a revêtu ce corps de serviteur afin que nous puissions être proches de lui. Nous étions perdus. Mais lui, il n'a pas regardé à ce que nous étions. Il s'est fait petit, humilié, prenant la forme de ce qu'il a créé, sa créature, l'homme. Et venir s'offrir en sacrifice à la gloire de Dieu le Père, afin que nos péchés soient pardonnés. Et nous, en retour de cet amour si grand manifesté, nous voulons dire à notre Dieu, nous voici. Et ça sera notre premier chant. Me voici dans le creux de ta main puissante.
Puissant, espérant Maintenant, je sais que je t'appartiens désirant. Ton esprit, ta présence dans mon cri. Mon seul vrai désir, c'est te connaître. Et toi, j'élèverai ma main au mon roi. En hymne de louange, je te chanterai de tout mon
maintenant. Maintenant.
Maintenant, je sais que je t'appartiens désirant. Ton esprit, ta présence, car mon cri, mon seul vrai désir, c'est te connaître. Vers toi, j'élèverai mes mains au pouvoir. De louange, je te chanterai de tout mon être. Je veux t'aimer, car je t'appartiens.
Le fait d'appartenir à ce Dieu si grand, si merveilleux, nous assure de ses promesses. Et l'une de ses promesses se trouve révélée dans les paroles de Romains 8. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous traversons, comme je le dis, certaines difficultés, mais nous pouvons être sûrs que ce Dieu qui nous tient la main nous emmènera à bon port. Abrite-moi. Thank you. savons que nous pouvons traverser. Non parce que nous avons de la force, mais parce que ce Dieu nous tient. C'est parce qu'il nous tient que nous pouvons traverser ces épreuves. Amen.
Je l'ai traversé.
dire que nous sommes tranquilles. Vous pouvez vous asseoir. Dieu est là. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Il a, Christ l'a manifesté à la croix. Et je vais appeler notre frère Émile. Je vais passer le micro pour la cérémonie de la scène.
Je m'appelle le frère Iras, le frère Eben, le frère Eric et le frère Stéphane pour le service. Merci. Jésus nous dit dans la parole, dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 46. Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et ce moment que nous partageons cela tous les mois, ce moment de Sainte-Cène nous rappelle, oui, que Jésus est venu dans le monde, afin que nous ne demeurions pas dans les ténèbres. Et Colossiens nous dit, chapitre 1, rendons grâce au Père. Remercions le Père qui nous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux saints, aux chrétiens, vivant dans la lumière. Ici, dans ce texte, cela nous rappelle ce que Jésus vient de dire, que nous avons entendu. Je suis venu. Il est la lumière. Et ici, la parole nous rappelle que nous vivons dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance, du pouvoir des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, étant unis, nous sommes rachetés. Parce que nous sommes unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Car Dieu l'a décidé, toute plénitude doit demeurer en lui. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Nous devons nous rappeler cela quand nous partageons le pain et la coupe. Oui, que Jésus seul réconcilie l'univers avec Dieu, tant ce qui est sur la terre et dans les cieux. Que Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Bien-aimé, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Si quelqu'un est en Christ, nous rappelle la parole, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous avez fait la paix avec Dieu, si vous êtes réconcilié avec Dieu, si vous avez accepté Jésus-Christ par la foi et que vous êtes passé par les eaux du baptême, vous devez prendre part à ce moment. Nous allons prendre une minute pour demander pardon à Dieu, si nous avons quelque chose sur le cœur, afin de pouvoir, avec la grâce de Dieu, avec son pardon, pour prendre part à ce moment. Inclinons-nous dans la prière. Je demandais au frère Eric de rendre grâce pour le pain.
Merci Dieu notre Père pour cet amour, ce grand amour que tu as déversé envers chacun de tes enfants, chacune de tes créatures.
En reconnaissant ça, nous voulons élever nos voix, chanter la grandeur de notre Dieu. Et combien Dieu est grand. Et ensuite, à la suite de ce chant, nous pourrons faire monter nos louanges à ce Dieu si grand, si merveilleux, qui nous a donné son Fils, son unique, celui qu'il aimait, en lui, en celui qu'il a mis toute son affection, afin que nous soyons sauvés.
Le roi dans sa beauté,
vêtu
de majesté,
toi. Aucun autre nom que l'on puisse être sauvé que par celui de Jésus. Encore une fois, combien?
Combien tu es grand, chante-le combien tu es grand, et tous verront combien. Tu es grand. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Chanterai combien tu es grand.
Merci pour cet amour indéfectible, inexprimable. Et Seigneur, tu nous as tout donné afin que nous soyons près de toi. Alors nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons parce que tu en es digne. En Jésus, nous t'avons prié.
Jésus-Christ, Seigneur, tu es venu sur terre pour nous retirer du péché, pour nous
Notre Dieu, il est si grand et pour nous, il déplace les montagnes. Celui qui nous couvre de ses ailes lorsque nous sommes dans ces moments difficiles, dans la sombre vallée. C'est lui qui déploie sa force et devant sa force, la création tremble. Parce qu'il a mis son nom dans nos vies, il nous a sauvés. Et son amour, il le déploie dans toute sa puissance. En Jésus-Christ, mon Dieu est Seigneur. bénissons notre Dieu et je vais appeler notre pasteur Serge Oulaï pour le message. Puissez-vous asseoir et que nous puissions disposer nos cœurs à entendre ce que Dieu a mis sur le cœur de son serviteur afin que son Église soit bénie.
Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. Voilà 12 mois. Voilà une année qui s'achève. Le Seigneur a-t-il été fidèle? Le Seigneur a-t-il été toujours là? A-t-il toujours répondu à nos prières? Voilà 12 mois et nous sommes encore là. Et c'est la grâce de Dieu. Notre Dieu est si grand. Notre Dieu est si grand. Prions. Te bénissons. C'est toi qui déplaces les montagnes, Seigneur. Tu es le Dieu de notre espérance. C'est le Dieu qui nous a fait grâce. C'est toi qui as fait briller sur nous ta lumière. Et nous sommes passés de la mort à la vie. Nous qui étions errants comme des brebis égarées, tu nous as pris sous ton zèle, sous ta responsabilité, par ton amour. Et tu nous guides désormais. Merci pour cette guidance, notre Dieu. Merci parce que Jésus, Fils de Dieu, nous a dit que tu es notre Père, que nous faisons partie de ta famille, la famille de Dieu, et que tu prends soin de chacun de tes enfants. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce. Donne-nous ce temps de méditation, de nous encourager réciproquement, de nous soumettre à ta parole, de la laisser faire son œuvre dans nos cœurs. Je prie que Saint-Esprit, que ce matin encore, tu nous aides ensemble à percevoir de toi ce que tu veux, que nous entendions pour notre marche avec toi. Éclaire-nous, parle-nous en Jésus-Christ. Amen. Ce matin et dimanche qui vient, sous l'invitation de quelques frères et de quelques sœurs, j'aimerais que nous méditions sur le dernier livre de la Bible en ce dernier mois de l'année, n'est-ce pas? Ce que nous avons convenu d'appeler Apocalypse, qu'on aurait aussi pu appeler Révélation, hein, parce que dans les versions anglaises, le mot qu'ils ont retenu, eux, c'est Revelation, donc c'est Révélation. Et le mot Apocalypse, c'est un mot juste, c'est un mot grec, mais quand on le traduit, en fait, il veut dire aussi Révélation. On a gardé juste la transcription du mot lui-même. J'aimerais que nous puissions méditer en pensant que voilà 12 mois, en faisant peut-être ce que je vais appeler un bilan. Un bilan pour l'avenir. Un bilan pour l'avenir. Tu l'as trouvé? D'accord. Si quelqu'un peut aider Aurélien à trouver la diapo. Je vous invite à lire le premier chapitre. Notre méditation va s'appuyer sur le chapitre 2. Mais pour mieux comprendre le livre d'Apocalypse, parfois on saute des étapes, on part sur un chapitre, on part sur un thème bien précis et on commence pas par là où il faut commencer. Et j'aimerais commencer par le commencement, le chapitre premier. Je lis dans la version du Semeur, à partir du verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui l'entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Jean salue les sept églises qui sont dans les provinces d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui se tiennent devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc, soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Verset 7. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé. Et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces sept églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voie. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait sept chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Oui, comme la neige. Ses yeux était comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sorti d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait sept étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors, il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des sept églises, non, des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers, les sept églises. Amen. Voilà comment ce texte s'introduit à nous. Tout le livre de l'Apocalypse. Vous l'avez trouvé? Non? C'est pas grave. J'avais voulu projeter parce qu'il y a des enfants et les enfants sont plus en image, n'est-ce pas? Mais les adultes peuvent se concentrer. On a cette parole de la révélation de l'apôtre Jean. Dimanche dernier, j'ai parlé de Jean, celui qui a écrit les évangiles, celui qui a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et c'est ce même Jean à qui Dieu donne cette révélation de l'Apocalypse. Dieu lui donne cette révélation alors que l'Église est persécutée et que Jean, à cause de l'annonce de l'Évangile, a été déporté sur l'île de Patmos. Il a été déporté comme un prisonnier. Et c'est pendant qu'il est sur cette île, en captivité, que Dieu lui donne la révélation, cette révélation des choses dernières. Révélation qui veut dire dévoilement de ce qui va arriver. C'est comme un voile, c'est comme un rideau qu'on tisse sur une scène. Vous savez, quand vous êtes au théâtre ou sur une scène de spectacle, le rideau, quand il est fermé, vous ne voyez pas ce qui est derrière. Et quand on commence à dérouler le rideau tout doucement, vous commencez à percevoir la scène. jusqu'à ce que le rideau soit totalement tiré. Et là, vous voyez la scène. Et c'est exactement ça, l'Apocalypse. C'est le dévoilement des choses qui vont venir. Petit à petit, bout par bout, morceau par morceau. Réalisation par réalisation. C'est ça, l'Apocalypse. Et puis ensuite, ça veut aussi dire divulgation. Parce que Jésus dit à Jean, écris pour divulguer ces choses. Et on a cette bénédiction qui dit, heureux celui qui lit ce texte et heureux celui qui l'entend pour le comprendre et pour y obéir. Donc, c'est l'invitation que ce texte donné par Jésus à Jean soit divulgué le plus largement possible. Il dit, c'est celui qui vient bientôt, des choses qui vont venir bientôt. Et parfois, bibliquement, le bientôt n'est pas l'instant d'après. Le bientôt, ce n'est pas demain, le 23. Le bientôt, dans la théologie biblique, c'est ça va venir de façon subite. Ça va venir de façon imminente. Quand ça va venir, bah, ça va arriver. Et le bientôt veut dire, de toutes les façons, ça va arriver. Et devant ce bientôt, quand les disciples étaient avec Jésus, ils lui ont posé la question, mais c'est à quelle heure, c'est quel jour, c'est dans quel mois, c'est dans quelle année? Et Jésus dit, ce n'est pas à vous de savoir ni le jour, ni l'heure, ni les mois, ni les années, mais ce que vous devez savoir, c'est que ça va arriver. Veillez pour que quand les choses arrivent, vous soyez trouvés fidèles à votre Dieu. Amen. Heureux celui qui lit le livre. Heureux ceux qui entendent la parole, la prophétie, qui la gardent. Les temps de la fin sont là. Et Jean termine dans ce premier chapitre, en tout cas l'une des sessions, en disant, les temps sont proches. Les temps sont proches. Et nous, vendredi, lorsque nous étions au conseil de cette église, nous faisions un constat. Et ce constat doit être un constat qui nous alerte, pas dans le sens de nous faire tomber dans un pessimisme ou dans une peur, mais qui nous alerte dans le sens de voir que Dieu réalise ce qu'il dit. Quand nous regardons ce qui se passe dans le sud de la France, nous sommes tristes. Nous sommes tristes. Aujourd'hui, ce n'est plus que dans le sud. C'est aussi sur l'île de Beauté que ça se passe. Des inondations, des hommes et des femmes qui perdent des choses. L'eau atteint un niveau qu'on n'a jamais vu avant. On peut dire que c'est le réchauffement climatique, bien sûr. Mais on peut dire aussi, attention, attention, attention. Notre confiance ne peut pas être dans notre bien matériel. Parce que regardez, en l'espace de quelques heures de pluie, toute une vie matérielle est engloutie. Quelqu'un disait dans un témoignage, il n'y a pas longtemps que je viens de laver la boue de chez moi, il n'y a même pas longtemps. Et là, je n'ai même plus à laver la boue parce que je ne peux plus rien récupérer du tout. C'est cette tristesse qui doit nous éveiller dans la prière pour prier pour ces populations et pour rendre grâce à Dieu parce que pour l'instant, nous sommes loin et nous ne sommes pas atteints. Mais nul d'entre nous n'est à l'abri de ces choses, frères et sœurs. Aucun de nous n'est à l'abri de ces choses. Et c'est là que l'invitation à nous tourner, à mettre notre confiance en Dieu, a tout son sens. Et nous voulons prier pour ces populations, que dans cette détresse, qu'elles se laissent, qu'elles entendent la voix de Dieu, qu'elles se tournent vers Dieu. Le message est adressé aux églises. Le message de l'Apocalypse est adressé aux églises, dont quelques-unes sont prises par le Seigneur comme des exemples, notamment celles d'Éphèse, de Smyrne, de Thyatire, de Pergame, de Philadelphie et de Sardes, comme un exemple. Et Jésus lui-même dit, je suis celui qui se tient au milieu, n'est-ce pas, des sept chandeliers, n'est-ce pas? Et il le dit lui-même, il dit, qu'est-ce que c'est que ces étoiles? Qu'est-ce que c'est que ces chandeliers? Il dit, ces chandeliers, c'est les églises. ces étoiles, c'est les anges. Mais en fait, le mot ange ici veut dire messager. On l'a traduit parfois par des anges spirituels qui veillent sur chacune des églises locales, mais aussi on l'entend par tous ceux qui ont une responsabilité dans les églises locales. Donc les deux entendements de messager sont dans le texte. Donc Jésus s'adresse à Jean, il dit à Jean, je m'adresse aux églises. Je parle aux anges qui sont responsables de ces églises, mais aussi à tous ceux qui sont dans ces églises-là. Donc ce texte s'adresse à chacun d'entre nous en tant que chrétien et chrétienne. Laisse la première diapo, s'il te plaît. Reviens sur la première. C'est vrai que l'accord fait que vous ne voyez pas le premier titre, mais c'est heure de bilan pour l'avenir. En es-tu conscient? Comment continuer ta vie? Le livre de l'Apocalypse est comme une heure de bilan. Dieu s'est révélé dans le passé, dans l'Ancien Testament. En Jésus-Christ, il a mis la cerise sur le gâteau dans sa révélation parce qu'il a révélé au monde entier. Et c'est ce que nous avons célébré dimanche dernier. Il a dit, vous cherchez à voir Dieu, mais voilà, Dieu s'est révélé à vous, comme vous-même. Dieu s'incarne pour nous montrer ce que Dieu attend de chaque homme et de chaque femme. Il dit, si vous voulez savoir comment Dieu voudrait que les hommes et les femmes marchent, bah regardez comment Jésus a vécu. Et les évangiles nous montrent comment Jésus a vécu, et les épîtres nous expliquent comment Dieu veut que chaque homme et chaque femme vive, comment Dieu veut que l'Église vive. Et dans l'Apocalypse, il dit, c'est l'heure d'un bilan. Jean, qui a non seulement témoigné de la vie de Jésus, mais qui aussi dans les épîtres nous a expliqué ce que Jésus attendait de nous, c'est à lui que Dieu donne l'heure du bilan. Jean est un témoin fidèle parce qu'il a marché avec Jésus, parce qu'il a été apôtre aussi, donc il a travaillé après Jésus. Donc il est capable de faire ce bilan-là dans la vision qu'il reçoit. Le mot bilan n'est pas un mot péjoratif. Il faut déjà commencer par se convaincre que bilan ne veut pas dire forcément négativité, tout ce qui ne marche pas. Bilan veut dire, je veux regarder qu'est-ce qui a marché dans ma vie. C'est ça un bilan. Dans un bilan, d'abord, qu'est-ce qui a bien marché dans ma vie. Et c'est pour cela que je vous invite maintenant à lire ce texte. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. C'est la première des sept églises à qui Jésus s'adresse au travers de l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Dimanche prochain, je pourrais revenir encore sur quelques qualificatifs qu'on voit dans le premier chapitre concernant Jésus. Ce texte, il dit au chapitre 2, verset 1, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Devant cette parole, deux choses. Un premier élément d'encouragement par rapport à cette église. C'était l'une des églises les plus solides de l'époque, l'une des églises les plus grandes de l'époque, l'une des églises dans laquelle Dieu avait beaucoup investi. On se souvient quand on lit le livre des Actes des Apôtres que c'est l'une des églises où l'apôtre Paul est resté longtemps, au moins 3 ans. où il a enseigné la parole de Dieu, il a formé des responsables. Dans Actes chapitre 20, il fait venir les anciens d'Éphèse, il dit, je vous ai instruit de toute la parole de Dieu pendant 3 ans, je vous ai tout enseigné. Vous êtes solide dans la foi. Et c'était une église de référence dans la région, parce qu'il y avait une solidité de l'enseignement de la parole de Dieu. Et quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul est fier de cette église, il dit, on parle de votre foi. Et quand je prie le Seigneur, je prie, quand je fléchis genoux, je me souviens de votre foi et je bénis Dieu. Donc ces deux éléments, vas-y dans la diapo d'après s'il te plaît, sont là. Le Seigneur tient les 7 étoiles entre ses mains droites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est lui qui est au cœur de l'Église. L'Église appartient à Jésus-Christ. Et on l'a bien étudié il y a quelques temps dans l'étude biblique que nous faisons les mardis et les dimanches. Quand on dit église ici, il faut la remplacer par église locale. Ce n'est pas l'église universelle où on dit c'est tous les chrétiens du monde. Non, quand ce thème apparaît, il apparaît pour dire église de Créteil. L'église de Créteil est dans les mains de Jésus. C'est l'église de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers. C'est-à-dire qu'il est présent au milieu des églises. Les églises reçoivent de Dieu leur lumière. Nous ne sommes pas un club, nous ne sommes pas une association. Même si c'est vrai que pour nous conformer à la loi de notre pays, nous sommes créés en association cultuelle. Mais nous sommes d'abord et avant tout l'église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas d'abord un bâtiment. Non, nous sommes un rassemblement des enfants de Dieu. L'église de Jésus, c'est l'église, c'est le rassemblement de tous les enfants de Dieu en un endroit précis. Ensemble, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Ensemble, Jésus est au milieu de nous. Le sais-tu, mon frère? Le sais-tu, ma sœur? Jésus est au milieu de nous. C'est lui qui l'a dit. Il dit, je suis celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Je suis celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Ça veut dire celui qui chemine. Le thème marcher ici, c'est cheminer. Celui qui chemine avec nous. Celui qui chemine avec nous. Alléluia. Vas-y, s'il te plaît. Compliment et reproche. Premier compliment, c'est une approbation. Le Seigneur dit, je suis fier de cette église d'Éphèse. J'ai une telle fierté de toi. Je suis fier de toi, Église d'Éphèse. Il dit ton travail, ton labeur, ce que tu... Le thème ici, c'est le thème de l'artisan, celui qui travaille de ses mains, celui qui met la main à la pâte. Il dit tes efforts dans la vie de tous les jours pour montrer ce qu'est l'Église, pour garder la parole de Dieu, pour vivre la parole de Dieu, ces efforts-là, je suis content de ces efforts-là. Tu connais la parole. Tu vis la parole. En ce temps de bilan, est-ce que Dieu peut être fier de toi aussi en disant, oh Serge, je suis fier de la façon dont tu as ce rapport avec la parole de Dieu. Je suis fier de la façon dont tu viens au culte pour écouter les messages, pour les comprendre. Je suis fier de la façon dont tu médites la Bible. Semaine après semaine, je suis fier de la parole, de la façon dont la Bible est d'abord la première autorité que tu consultes quand tu veux faire quelque chose d'important dans ta vie, même quelque chose qui n'est pas important. Moi, j'aimerais que Dieu me dise ça. Et je travaille à ça. Et je vois, en connaissant la plupart d'entre vous, que nous travaillons tous à ça. On peut être fier. Si nous sommes là ce dimanche, avec tous les dimanches qu'il y a eu au cours de l'année, nous avons été fidèles. Je crois que cette approbation aussi pour nous peut dire merci Seigneur, car tu m'as donné cette fidélité. Mais si pendant que nous parlons ensemble, tu sens que ce n'est pas une vérité dans ta vie, ne plonge pas, ne te culpabilise pas. Dis simplement Seigneur, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Et j'ai rappelé pourquoi il peut féliciter cette église. Parce qu'il dit, cette église a été fidèle. Ils ont été là dans les études bibliques que l'apôtre Paul a fait avec eux à Éphèse. Ils ont été fidèles dans les formations bibliques. Les anciens eux-mêmes. Vous savez que se former bibliquement, que ce soit à l'école le dimanche, que ce soit ici, ça demande des efforts. C'est pour ça qu'il commence en disant, ton labeur, ton effort. Venir régulièrement écouter un message ou venir faire des études bibliques ou préparer les études bibliques comme nous faisons dans la formation ITA, ça demande un effort. Qu'est-ce qui ne demande pas un effort dans la vie? Dites-moi. Qu'est-ce qui ne demande pas un effort dans la vie? Dites-moi. J'ai envie de dire, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Si je prends juste l'exemple du ménage chez nous, laissez un jour passer sans faire le ménage. Laissez deux jours passer sans faire le ménage. Laissez une semaine et là vous dites, oulala. Oulala. Mieux vaut faire le ménage chaque jour. En tout cas, tant qu'on le peut. Plutôt que d'attendre un mois. Parce que le travail après, il est colossal. Et en termes de méditation biblique, d'études bibliques, c'est pareil. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons. Nous voulons toujours attendre un moment où nous avons la disponibilité, où on a du temps, où on aura assez de liberté pour venir nous former, pour méditer, pour étudier la parole de Dieu. Sauf que, dans la vie vraie, ce temps, on ne l'a presque jamais. On le reporte, et on le reporte à nouveau, et on le reporte à nouveau, et après on est tout triste en disant, oulala, 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 j'y suis pas arrivé. Il faut faire avec le temps qu'on a, il faut faire avec l'effort qu'on peut faire. Amen. Donc il les félicite pour cet effort. Il les félicite pour la patience, la persévérance. L'église d'Éphèse est l'une des toutes premières. Et jusque-là, cette église persévère. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, cette église n'existe pas, malheureusement. Dans cette partie du monde qu'on appelle Éphèse, on n'a plus un témoignage assez puissant de l'église. Ça s'explique aussi par l'histoire. Mais au moment où l'apôtre Jean reçoit cette révélation, cette église était une église persévérante. Cette patience, cette persévérance dans l'épreuve, devant le découragement, devant la fatigue, Jean commence à dire, je suis avec vous, nous sommes tous témoins de la persécution et de la difficulté que nous traversons. Donc l'église était dans une période difficile, mais elle persévérait. Es-tu dans une période difficile? Traverses-tu une période compliquée? Ça arrive dans la vie, n'est-ce pas? La vie n'est pas toujours ce qu'elle est. Parce que malheureusement, le mal est dans le monde et le péché est dans le monde. Et notre monde est un monde pécheur. Et les circonstances de la vie ne sont pas toujours roses. Et pourtant, nous avons besoin de demander à Dieu, donne-moi la force de persévérer et d'être patient. La Bible dit que c'est un fruit de l'Esprit de Dieu. Quand Dieu vient à notre rencontre et qu'il marche avec nous, la Bible dit que l'une des choses qu'il aime faire, c'est de nous donner, de développer la patience. Galates chapitre 5, c'est l'un des aspects du fruit de l'Esprit de Dieu, d'aider le croyant, le chrétien, la chrétienne à persévérer. À persévérer. L'adage populaire dit lui-même, car au bout de l'effort, il y a la récompense. Et la persévérance est une des vertus dans notre monde. Mais elle était déjà dans le cœur de Dieu. Malgré cette connaissance biblique et cette pratique de la persévérance, Jésus a quand même un reproche à faire à cette église, n'est-ce pas? Vas-y. Il y a une exhortation de Jésus à la repentance. Éphèse a perdu son premier amour. Qu'elle y revienne, sinon le chandelier lui sera ôté. Sa haine des Nicolaïdes, qui est certainement une mauvaise doctrine, est un gage que cette église peut se repentir, puisque elle n'a pas sombré dans la mauvaise doctrine. Mais c'est quoi alors le premier amour qu'elle a perdu, si elle n'a pas perdu la vraie doctrine de Dieu? Si la parole de Dieu est encore vraie dans cette église? Mais pourquoi Jésus dit qu'elle a perdu son premier amour? Vous savez que l'œil pénétrant du Seigneur, n'est-ce pas? C'est cet œil qui discerne à côté de ce grand zèle pour la propagation de l'évangile et la pureté de la doctrine au cœur de l'église d'Éphèse. Il y a un triste manque du premier amour. Cette ardeur, cette toute puissance du sentiment qui suit la conversion et qui rend capable de tout sacrifier. Quand on dit sacrifier, c'est de voir, c'est de peser le poids et de compter des choses, de dire, être en Christ, garder les valeurs de Dieu, laisser ces valeurs me conduire, vaut mieux que de faire autre chose. L'autre chose, dans l'immédiateté, je peux en voir des conséquences positives, mais à moyen et à long terme, je vais comprendre que ce n'était pas le vrai choix, ce n'était pas le bon choix. Et ici, nous avons une invitation, bien-aimés. Nous qui sommes des chrétiens d'un certain temps, à l'heure du bilan après 12 mois de marche chrétienne, encore une année de plus, où en es-tu avec cette ardeur? Vous savez, dans la foi, il y a au moins trois éléments dans la foi. Il y a cet élément spirituel qui vient de Dieu lorsqu'il nous rencontre et qui nous fait bouger vers Dieu. Il y a cet élément émotionnel, sentimental, qui nous touche et qui nous dit « j'aime le Seigneur » et qui me fait bondir pour mon Dieu et qui me fait voir toute la beauté de Dieu. Et puis enfin, il y a cet élément qu'on appelle la sagesse qui me donne de bien articuler cette parole dans la vie de tous les jours. Et là, Dieu parle de cet élément sentiment, cette émotion qu'il aime aussi. La Bible est remplie des émotions de Dieu. Dieu est triste, Dieu est en colère, Dieu est joyeux, Dieu est heureux. Et il nous a créé à son image. Et il dit à Éphèse, je ne vois plus ce sentiment que tu avais avant pour moi. Je ne le sens plus, je ne le vois plus. J'ai l'impression que tu fais les choses par tradition, par routine. C'est déjà bien, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est déjà bien. Tu n'as pas quitté le chemin, mais où en es-tu, mon frère? Où en es-tu, ma soeur? Aimer Dieu, c'est dans la tête, mais c'est pas que dans la tête, c'est dans toute ta vie. Que Dieu nous aide, bien-aimés. As-tu perdu ce premier amour? À l'heure du bilan, est-ce que tu as été persévérant toute l'année dans ce sentiment, dans cet engagement, dans cet amour pour Dieu? Est-ce que venir à l'église, c'est quelque chose qui te fait encore quelque chose de, où c'est devenu un peu compliqué? Ou bien c'est un reflet de toutes les façons, tu es habitué à venir à l'église, comme tu es habitué à aller au travail, comme tu es habitué à aller au supermarché. Si tu ne vas pas au supermarché, tu n'auras pas le quotidien ne sera pas. Et je pense qu'il faut être attentif à ça. Quand ma vie chrétienne, quand ma façon de vivre ma foi chrétienne devient peut-être trop une tradition, quelque chose que je sais faire et que je fais par réflexe, c'est déjà pas mal, mais ça donne une alerte. Tu es en train de perdre quelque chose parce que c'est plus l'enthousiasme qu'il y avait avant, c'est plus cette émotion forte qu'il y avait avant. Faut-il encore que tu aies connu cette émotion forte déjà? Est-ce que tu as connu cette émotion? Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça où il y a une connexion entre toi et Dieu, où tu as senti quelque chose? Oui, je pense que oui. Souviens-toi de ce moment-là. Et souviens-toi de comment après, ta vie a été boostée. C'est ça que Dieu dit à Éphèse. Il dit, reviens. Reviens à cet amour. Il n'est pas tard. Tu peux encore revenir à ça. Tu as même les capacités d'y revenir. Regarde, je suis disposé à t'aider à y revenir. Que Dieu nous bénisse en ce dernier mois de l'année. Mois de bilan où nous pouvons dire gloire à ton nom, car voici 12 mois, voici 300 et quelques jours, et je suis là avec le souffle de vie que tu m'as donné, présent encore ce dimanche 22 dans ton église, et tu sais que je t'aime. Et dimanche prochain, je reviendrai dessus, mais j'aimerais terminer avec ce texte de quelqu'un qui a dit la même chose, à qui Jésus a dit aussi quelque chose. Vas-y pour la dernière diapo. C'est l'apôtre Pierre, dans l'évangile de Jean. À la fin de cet évangile, Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna. Il fit de même du poisson. Je suis au verset 13 du chapitre 21 de Jean. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre viendra et te mènera où tu ne voudras pas. » Jésus, à Pierre, il lui pose cette question à trois reprises. Et on se demande, mais pourquoi il a fait cela? On reviendra dessus dans le message du dimanche prochain. Mais c'est juste un bilan aussi pour nous. J'aimerais juste, moi, en regardant ce texte, remplacer Simon Pierre par Serge Oulahi. Serge Oulahi, m'aimes-tu vraiment? Serge, fils d'Oulahi, m'aimes-tu? Serge, fils d'Oulahi, m'aimes-tu? Et j'aimerais répondre à Dieu. Et j'aimerais que ce temps de fin d'année soit le temps que tu prends pour répondre à la mort de Dieu. Prions. Béni sois-tu, notre Dieu. Tu m'as mis à cœur ce message, pas pour culpabiliser qui que ce soit, encore moins moi le premier, mais pour nous aider à aller de l'avant avec toi. Tu nous révèles ces choses pour que notre vie progresse, que notre continuation dans la vie soit meilleure, pas pour que nous régressions, pas pour que nous disions, oh, c'est pas pour moi, parce que tu nous donnes ton esprit pour que nous puissions être fortifiés par lui. Alors pendant que je prie, tu connais nos cœurs. Tu vois tes enfants. Je prie, Seigneur, que ceux que tu vois et que tu connais, qui sont dans une phase que toi tu sais, porte-les, nom de Jésus, porte-les, notre Dieu. Mais porte-nous tous, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes. Nous sommes devant toi. C'est toi, Jésus, la lumière du monde. Tu marches au milieu de cette chandelier d'or. Tu es au milieu de nous. Tu es avec nous. Montre-le-nous, s'il te plaît. Tu nous l'as démontré au cours de ces 12 mois. Parfois, nous ne l'avons pas vu. D'autres fois, nous avons dit où tu es, alors que tu étais là quand même. Et j'aimerais tellement que tu nous montres que tu es là, que tu es présent, que tu es vivant dans nos vies, dans nos projets de vie, dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations, dans notre travail, dans notre famille. Béni sois-tu.
Nous inviter quand même à un moment de silence, prendre ce temps pour faire le bilan. Sur le bilan, qu'en est-il de mon amour? T'es dit, m'aimes-tu? Chacun se posait cette question et le bilan de notre premier amour. par ce chant, nous... C'est comme une prière. On dit à Dieu de nous permettre à nouveau de chanter ce chant d'amour pour notre Seigneur, pour notre Sauveur. Pas empêcher les vicissitudes de la vie de regarder à Christ et à son amour. À lui et que cette parole, ces paroles que nous avons entendues encore ce matin, continuent à nous nourrir et à nous façonner et que nous puissions encore nous rapprocher de notre Dieu. Nous voulons aussi prendre le temps de faire donner nos offrandes à Dieu. Je vais inviter deux frères. Grâce à notre frère. Oui, bien.